Enfin, moi, quand je compare, par exemple, je regarde la génération au-dessus, que ce soit mes grands-parents ou mes parents, ils avaient une, enfin, quand je regarde, ils ont une capacité de résilience, de force, de travail qui, à chaque fois, je me dis, mais moi, je fais rien à côté, je fais rien. C'est impressionnant cette détermination. Et du coup, voilà, je me dis que avec les générations, alors c'est super. Je trouve qu'on est quand même des choses qui ont facilité notre vie et qui ont rendu plus facile. Enfin, rien que la machine à laver le linge, hein, c'est quand même quelque chose qui est extra. Donc, je dis pas qu'il faut revenir à l'ancien temps, mais c'est juste, je pense que parfois on a perdu, et en tout cas je parle pour moi, un peu cette notion de faire des efforts et de. Alors c'est pas ouais, le plaisir de l'effort pour l'effort, hein, mais c'est de pas avoir peur. Je me souviens aussi, un peu lié dans le même sens, j'avais entendu un message sur la souffrance. Quand j'étais aux États-Unis à l'école biblique, et c'était très intéressant. Donc là, je vais pas développer, mais c'est vrai que parfois on rejette complètement la souffrance en disant c'est mal, mais il y a quelque chose parfois. Enfin, la souffrance en elle-même n'est pas forcément mauvaise. Enfin, je fais une grosse parenthèse, je vais pas plus loin. Mais du coup, c'est pareil pour l'effort. Il faut pas avoir peur de, entre guillemets, de transpirer et de se donner pour aller plus loin. Voilà, c'est juste une petite. Petite parenthèse par rapport à ça sur le fait de se donner du mal pour approfondir les choses. Et un autre point très important, du coup, dans ce que dit Jésus, donc vous ne comprenez pas en quel temps vous vivez. Du coup, ce qui nous dit aussi, ce qui est important, c'est il faut qu'on comprenne les temps dans lesquels on vit. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'arrêter, se poser et réfléchir. Pas juste absorber les infos comme ça. Parfois, d'ailleurs, quand on fait que absorber, souvent ça passe un peu et puis ça ressort. Et ça me faisait penser à plusieurs choses. La première, c'est dans Psaume 46, 11, il y a ce arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et souvent, il me vient plus en anglais, mais be still and know I am God. Mais voilà, c'est OK, stop. On est souvent en mode accéléré. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a plus de facilité, on fait plus de choses, on court dans tous les sens. Et on prend moins ce temps de se poser et de réfléchir aux choses importantes. Il y a aussi, on le dit souvent à l'Église, on écoute ce qui est dit, ce qui est prêché, ce qui est partagé, mais on vérifie avec la parole de Dieu. Encore une fois, on ne fait pas que absorber. C'est pas parce que quelqu'un est ici, derrière la chair, que c'est la vérité. Il faut que vous vérifiez avec la Bible. Il faut que vous alliez chercher par vous-même. Et ça demande un effort, parce que c'est plus facile d'écouter quelqu'un, de prendre l'info et dire c'est bon, c'est vrai. C'est si plus facile que de dire, bon, il a dit ça, alors ok, il a dit que c'était là, est-ce que c'est bien là, est-ce que c'est cohérent à ce que dit la parole de Dieu? Et ça, c'est vrai que ça demande du travail, mais c'est ce que nous demande la parole de Dieu aussi, c'est ce que nous dit Jésus. Il y a autre chose que j'aime bien, c'est pareil, je pense que ça vient aussi de ma maman, mais il y a un truc qui est très important, c'est quand on regarde un film, ou une série, enfin en tout cas quand on regarde un film, moi j'aime bien, je le dis souvent aussi aux jeunes, ok, vous avez regardé un film, vous avez passé un moment sympa, super. Ok, maintenant arrêtez-vous et réfléchissez aux messages qui vous ont été passés. Parce que, je veux dire, tout, enfin rien n'est innocent, entre guillemets, il y a toujours un message qui peut passer. Il peut être bon ce message, il peut être mitigé, il peut être très mauvais, mais il faut y réfléchir. Et du coup, se dire, ok, bon alors il y avait ça, oui, réfléchir aussi, se dire, il y a eu ce passage-là, là j'étais un peu... il y a toujours quelque chose, en général, quand on fait... un film, on veut toujours passer un message. Ça peut être, on veut faire rire les gens, c'est très bien. Mais il y a toujours quelque chose qui doit passer. Et du coup, c'est important de réfléchir quel est le message qui nous est passé. Donc, que ce soit les films, que ce soit un bouquin, que ce soit quoi que ce soit, réfléchissons. Et c'est important, parce que sinon, on se laisse complètement... c'est comme ça qu'on formate les esprits. Et si on ne réfléchit pas, qu'est-ce que j'accepte de croire et qu'est-ce que je refuse de croire, eh ben, on va juste se laisser porter comme un poisson mort sur l'eau. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on est appelé à être ces poissons vivants qui remontent le courant. Et c'est vrai que ça demande des efforts, ça demande d'être persévérant, mais c'est ce à quoi on est appelé. Mais du coup, effectivement, quand je vous dis ça, il faut réfléchir, il faut se poser, il faut comparer, ça veut dire qu'il faut bien qu'on ait une base sur laquelle on se réfère. Et nous, en tant que chrétiens, en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est la Bible. Et justement, je relisais, là, il y a un petit article dans un magazine, chrétien qui reprend les points solo gloria, non je sais plus comment, enfin Dieu seul, à Dieu la gloire, les principes de la réforme là, voilà. Et donc il y a les écritures seules, et il disait bien à quel point ils expliquaient à quel point Luther, voilà, il avait, j'avais une citation, bon je l'ai pas prise, mais qui disait à quel point voilà il y a qu'une chose sur laquelle je veux me baser, c'est pas le pape, c'est pas le Vatican, c'est pas vous, c'est ce que dit les écritures. Et nous, voilà, c'est notre héritage aussi. Et c'est les Écritures, c'est ça qui est notre base de référence. Et c'est ça sur lequel on doit tout comparer. Et donc voilà, c'est quelque chose de très important quand on veut savoir où on en est, que ce soit dans notre vie ou voilà, les messages qui nous sont passés. Vérifions avec ce que nous dit la parole de Dieu. D'où l'importance de ce que disait aussi ma mère dans les messages précédents et ce qu'on dit depuis longtemps dans l'Église en général, l'Église avec un grand E, c'est l'importance de connaître sa Bible. Alors, j'aime bien, c'est Luc Maroni qui dit ça, arrêtez de lire la Bible, méditez-la. Voilà, quand on dit lisez la Bible, vous comprenez, vous devez comprendre ça derrière. C'est que, voilà, parce que c'est vrai que vous pouvez lire la Bible en entier tous les ans, mais c'est pas ça qui va changer votre cœur. Parce qu'il y en a plein des gens qui lisent la Bible après tout. Mais ce qui compte, c'est ce que vous allez en retirer. Et c'est vrai, parfois, ne serait-ce que vous prenez deux versets le matin et que vous allez mâchouiller toute la journée, et ben, ça aura plus d'effet que si vous avez lu trois chapitres le matin même. Parce que, donc voilà, je ne sais pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode, mais ce qui est important, c'est est-ce que vous intégrez la parole et du coup de la méditer. Et ça, encore une fois, oui, ça demande des efforts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt envie de lire un truc tout fait. Et puis, bon, c'est fait, je coche ma case, j'ai lu mon petit chapitre. Mais voilà, après, je lance la pierre à personne, je suis dans ce cas-là. Moi aussi, parfois, c'est plus facile de me dire, ok, ça c'est fait. Mais on est appelé à aller plus loin, on est appelé à faire ces efforts-là. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'on doit porter notre croix et qu'on parle de tuer la chair. Parce que la chair, elle a une tendance plutôt à la paresse. Et moi, j'en fais, mieux je me porte. Mais bon, c'est très faux. C'est complètement faux par rapport à notre, la façon dont on a été créé, la façon dont on a été fait. Et je pensais aussi au TQP, la première leçon, c'est marcher par l'esprit. Donc il faut se laisser conduire. Et l'esprit est là pour nous aider. Il ne s'agit pas après de tout faire à la force du poignet. C'est encore une fois, c'est vraiment avec... on le fait aussi parce qu'on aime Dieu. On veut aussi être reconnaissant. Dire si on peut vivre et faire tout ce qu'on fait, c'est aussi par la grâce de Dieu. Et on va être reconnaissant de ça, et du coup, on veut le connaître, et plus on veut le connaître, plus on va méditer, plus on va méditer, plus on va absorber, plus on va absorber, plus on va être transformé. Et ça continue comme ça, de plus en plus loin. Et là, du coup, notre vie, elle prend toute une ampleur. Et on vit pas juste pour moi-même ou pour mes propres envies, désirs. Il y a quelque chose de plus grand qui s'ouvre. Et je pense que quand on, c'est quelque chose qui nous passionne, qu'on aime, c'est pas dur de faire des efforts. C'est moins dur de faire des efforts. Et pour ça, je voudrais donner un exemple d'Olivier, mon frère. Je n'en ai pas parlé, désolé. Mais hier, on a fait nous, on fait les anniversaires par package. Au mois de mars, on a trois anniversaires, donc on fait les anniversaires. Au mois de mai, trois aussi. Enfin, voilà, on fait ça par package. Donc hier, c'était les anniversaires de mars, donc les martiennes. Voilà, donc Sonny, Cathy et ma maman, donc c'est tous les trois au mois de mars. Donc bon, on est tous ensemble et puis bon, on partage, on fait un peu, là on passe des bons moments. Et au bout d'un moment, Olivier, il parlait de son boulot et il parlait de ses présentations. Comment ça s'appelait, pas le speeches, mais le dernier là, storytelling. Voilà. Donc il expliquait ça et du coup, Olivier, c'est devenu un bon orateur, passionné, qui aime partager, qui aime communiquer ce pourquoi il est passionné. Et bien qu'en plus il a encore rappelé hier qu'il n'aimait pas l'école, je crois que c'est toujours le cas, mais il a su approfondir un savoir-faire et écouter ce qui se disait sur le sujet. Par exemple, il aime beaucoup tout ce qui est TEDx là, et autres, et même il a lu des livres sur le sujet. Olivier. Et ça, c'est ouf. Et du coup, voilà, donc bon, c'est un exemple juste pour dire que quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, on est capable de faire des choses qu'en général on n'aime pas. Dites-lui de lire un roman de 500 pages sur la Renaissance ou je sais pas quoi, il va vous rire au nez. Mais voilà, mais sur un truc qu'il aime, et je pense qu'on est tous comme ça, à partir du moment où on a trouvé quelque chose qui nous passionne, bon, on est prêt à faire des trucs qu'on ferait pas dans d'autres domaines. Et du coup, ça nous amène aussi à comprendre les temps dans lesquels on vit. Par exemple, Olivier, là, c'était, il cherchait à savoir comment est-ce que les gens écoutaient, comment est-ce qu'on peut finalement mieux communiquer aux gens. Entre autres, il a travaillé sur ça. Et ça, c'est aussi comprendre les temps dans lesquels on est. Comment est-ce qu'on va annoncer, par exemple, la parole de Dieu? C'est vrai qu'on n'annonce pas la même chose que le temps des premiers chrétiens, que le temps de la réforme, qu'aujourd'hui. On ne change pas le message. Mais la façon de le dire, parce que il y a des choses qui parlent plus de la même manière dans la façon de faire. Mais du coup, voilà, on est appelé à connaître les temps dans lesquels on vit. Et du coup, au-delà de ça, de comprendre dans le temps, mais aussi le contexte des personnes à qui vous parlez. Dire parfois, les gens, ils ont besoin de compassion. Parfois, les gens, ils ont besoin d'un petit coup de pied au derrière, parce que c'est ça qu'ils ont besoin à ce moment-là. Il faut, du coup, pas se contenter d'appliquer une méthode, mais de comprendre les gens, de comprendre les temps dans lesquels on est. Et donc, voilà, pour moi, ce passage-là, c'était ce que je voulais, enfin, ce que j'ai l'impression que Dieu voulait nous dire. C'était vraiment une exhortation. En premier, à se poser, s'arrêter, arrêter notre tourbillon, là, et reconnaître où on en est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et quel sens ça a. Encore une fois, Olivier, il en parlait pas mal de ça, mais enfin, on en parle aussi à l'Église, mais à quel point on est dans une... le mot, c'est pas génération que je cherche, mais dans une époque où on est en quête de sens. On a perdu parfois le sens de pourquoi on fait les choses. Et on en a besoin dans notre vie de manière individuelle, mais on en a besoin aussi en tant que groupe. On en a besoin en tant qu'Église. Et du coup, voilà, c'est important. Alors, je dis pas qu'il faut se poser comme ça de manière extensive tous les jours à chaque fois qu'on va faire un truc. Non, mais il faut savoir le faire de temps à autre. Je veux dire, quand on voit qu'on fonctionne un peu en mode machine, se dire, ok, est-ce que je fais juste ça parce que je dois le faire, ou est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que je me souviens pourquoi je le fais? Est-ce que Seigneur, c'est toujours dans cette direction? Parce que on vit aussi des saisons. Je pense que les saisons, bon, je crois que j'ai entendu ça quelque part, que les saisons naturelles nous rappellent qu'aussi dans nos vies on a des saisons. Et que voilà, alors bon, elles sont pas de la même durée que les saisons naturelles, mais il y en a, et du coup, on est appelé parfois à se reposer et dire, ok, là Seigneur, tu voulais que je fasse ça, tu voulais que je serve là, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu veux que j'aille dans une autre direction? Tu voulais que je travaille ça, est-ce que je l'ai vraiment bien travaillé? Est-ce que j'ai évolué sur ça, ou est-ce que maintenant je peux aller ailleurs, ou je dois continuer à travailler ça? Et ça, je pense qu'on le fait pas assez, enfin, moi la première, hein, mais de se dire vraiment, savoir s'arrêter. Donc, on se calme, on se pose, je reconnais que tu es Dieu. Et maintenant que je t'ai remis à ta juste place, au centre, pas seulement au centre, mais qui fait partie de tout, qui est, on dit, en tout, partout, voilà, qui vraiment qui englobe tout. Voilà, et maintenant, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où tu veux que j'aille? Et est-ce que je suis dans la bonne direction? Et quel sens ça? Voilà, et je pense que c'est important de connaître les temps dans lesquels on vit. Donc, on vit individuellement, on vit en groupe. Donc voilà, donc j'avais mis quelques exemples de questions à se poser. Oui, non, c'était que je me disais aussi, oui, effectivement, que c'est le fait de se poser, de réfléchir où on en est, on le fait dans l'entreprise. On le fait même à l'école, parce qu'au final, on teste les contrôles, c'est pourquoi, c'est pas juste pour nous embêter, et même si parfois on le vit comme ça, et nous faire travailler jusqu'à tard le soir parce qu'on a oublié d'apprendre notre leçon d'histoire. Mais c'est aussi pour savoir où on en est. L'idée, c'est de savoir, est-ce que la leçon qu'on vient de voir, je l'ai acquise? Est-ce que je l'ai comprise? En fait, à la base, c'est ça. Mais nous, c'est vrai que, je sais, quand on est dedans, on voit juste ça comme des notes. Et puis, est-ce que je vais passer dans la classe suivante? Mais l'idée, à la base, c'était juste de voir où on en est. C'est de se dire, bon, est-ce que ça, je l'ai acquis ou pas? Donc, on le fait à l'école, on le fait à l'entreprise, mais on le fait pas forcément dans notre vie individuelle. Vraiment, la vie personnelle. Et du coup, moi, je vous invite à vous poser ces questions sur quelles sont mes valeurs, au final. Faire un petit check et dire, bon, là, c'est quoi mes valeurs aujourd'hui? Et quels sont mes choix? Est-ce que mes choix sont bien liés avec mes valeurs? Parce que parfois, on peut être pas cohérent. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi, ça, c'est mes valeurs. Je les annonce, c'est beau, c'est merveilleux. Et puis après, on regarde, on dit, mais attends, t'as fait ce choix-là, c'est pas très cohérent avec ce que tu dis que tu crois, non? Et voilà, mais c'est juste parce que parfois on réfléchit pas et puis on se dit, ah mais oui, t'as raison, en fait, ok, j'ai fait ça, mais c'est pas en cohérence. Donc est-ce que, du coup, je vais réajuster mes choix en fonction de mes valeurs, ou c'est ma valeur que je dois changer? Donc se poser par rapport à Dieu. Quels sont mes intérêts, mes passions? Quelles sont les influences dans ma vie? Est-ce que, voilà, par quoi je me laisse influencer? Est-ce que parfois je me laisse influencer par des choses ou des personnes que je devrais pas? Et je dois reprendre un peu le contrôle de ça et me dire, bon, voilà, je sens que cette influence, elle est pas bonne. Je sens que celle-ci, elle est bonne. Je vais aller plus loin. Se poser ces questions. Quelles sont mes priorités? Et encore une fois, comme par les valeurs, est-ce que je les mets en pratique? Et quel est mon Dieu? Est-ce que mon Dieu, c'est vraiment celui de la Bible? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou quelqu'un d'autre? Il y a de toute manière, on lit toujours aussi cette petite formule, en nous, on a un vide en forme de Dieu, et on va toujours essayer de le remplir. Il n'y a que Dieu qui peut combler, mais on va toujours essayer de remplir par autre chose. Donc, si, de toute manière, vous avez un Dieu, quel qu'il soit. Soit c'est le Dieu, la parole de Dieu, soit c'est autre chose. Vous ne pouvez pas être sans rien, en fait, ce n'est pas possible. Donc voilà, des fois, souvent, on n'a pas forcément envie de faire ça, parce que ça nous demande de sortir un peu de notre quotidien, justement, on est bien rodé, donc ça avance, ça marche, donc on n'a pas trop envie de s'arrêter dans ça. Ça nous fait aussi sortir de notre zone de confort, mais c'est pas confortable. Mais aussi parce que parfois, on sait que les réponses ne vont pas nous plaire. On sait que les réponses, enfin on les connaît déjà, c'est comme parfois, on sait qu'on fait un truc pas bien, et on n'a pas envie d'aller voir les personnes pour leur demander ce qu'elles en pensent, parce qu'on sait très bien ce qu'elles vont nous dire. Donc on préfère faire l'autruche, et puis voilà, on fait comme si ça n'existait pas. Par exemple, ah, c'est très dur, mais j'aime bien ma voiture, j'étais contente de m'acheter ma première voiture neuve et tout, et je l'ai raflée. Eh bien, même mon système, c'était je le dis à personne, comme ça c'est comme si ça n'existait pas. C'est ridicule, on est bien d'accord. L'éraflure, elle est bien là, et je la vois à chaque fois que je rentre dans ma voiture. C'est un peu plus qu'une éraflure, ça me fait très mal. Mais voilà, mais des fois, on a ce raisonnement un peu stupide de se dire, je sais pas, je le dis pas, donc c'est comme si ça n'existait pas. Et voilà, et du coup, des fois, on sait que les réponses qu'on va avoir à nos questions, on sait que ce ne sont pas les bonnes. Alors, c'est pour ça que, sur mon papier, j'ai mis les réponses ne vont pas nous plaire avec des petits guillemets, dans le sens où elles ne nous plaisent pas. Disons qu'elles nous plaisent parce qu'on est confortable, mais on sait que ça ne va pas être en cohérence avec ce qu'on veut vivre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Parce qu'on sait que ce ne sont pas les bonnes réponses. Donc voilà, donc du coup, pour certaines de ces raisons, on n'a pas envie de faire le point, de s'arrêter et de dire, voilà, Dieu, tu es Dieu. Et maintenant, tu es Dieu de ma vie et qu'est-ce qui doit en découler ? Donc voilà, donc tout ce petit passage, c'était juste une exhortation, un encouragement à ne pas avoir peur. Ça tombe bien, parce que ce matin, il y a eu beaucoup de choses sur la peur, de ne pas avoir peur de faire cette démarche, de faire cette remise en question. Et encore une fois, il ne faut pas être parano et tous les jours se poser des questions existentielles. Mais c'est quand la dernière fois que vous l'avez fait ? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé et que vous vous êtes dit « Ok, où j'en suis par rapport à ça ?» Parfois, on peut le faire avec quelqu'un, mais il y a au moment où il faut être, j'ai redit, face à face avec Dieu. Et vraiment, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui est dans notre cœur. Donc voilà, je vous encourage à vivre ça. Le passage suivant, qui est aussi quand même en cohérence, c'est donc dans Luc 13, 10 à 13. Donc je vous le lis. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'est trouvé une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Alors, ce passage il peut être très riche parce que là je me suis arrêtée à la moitié du petit passage, mais voilà, je ne vais pas parler de la polémique sur du sabbat qui est soulevée par le chef de la synagogue dans la suite. Hein, il dit « voilà, pourquoi tu as guéri quelqu'un ? C'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit. » Bon, bref, je ne vais pas parler de ça. Je fais juste une petite parenthèse sur l'esprit d'infirmité. Il y a une expression, j'aime beaucoup les expressions et les citations, et j'aime bien celle-ci qui dit « ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant ». Et là, par rapport à ce qui est dit sur l'esprit d'infirmité, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'une maladie peut être causée par un esprit. Mais ça ne veut pas dire que toutes les maladies, ce sont des esprits. Une maladie peut être causée par une maladie, un problème génétique, autre, voilà. Et des fois, ça peut être un esprit. Mais il ne faut pas faire des généralités. Il y a aussi cet autre raisonnement, c'est comme on dit, voilà, tout ce qui est rare est cher. Un cheval borgne est rare. Donc, un cheval borgne est cher. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est pareil. Pour les maladies, il ne faut pas tomber là parce que c'est marqué en disant, voilà, ce n'est pas une généralité. Parfois, ça peut être un esprit et parfois pas. Et donc là, c'est pareil, c'est important de voir avec Dieu. Si vous sentez que vous avez un problème, une maladie qui vous dit « non, là, il y a un problème », peut-être c'est un esprit. Mais il ne faut pas tout de suite tomber dans ça en se disant... Voilà. Donc c'était juste deux petites parenthèses. Moi, ce que je voulais vraiment aborder avec vous ce matin, c'est cette femme et sa situation. Donc... Son Parce qu'on peut, on peut se dire que, comme ça fait 18 ans qu'elle vit dans cette situation, elle s'y est fait un peu. Enfin, elle s'est dit, bon, bah, c'est une fatalité, c'est comme ça. Au bout d'un moment, j'arrête de me battre et je vis avec. Et je voulais juste vous lire, j'ai ma Bible, là, c'est la Bible des femmes, je sais pas, je crois que c'est ça. Et dedans, il y a des petits encarts. Et je voudrais juste vous lire ça, parce que moi, ça m'a, en tout cas, ça m'a parlé, je me suis sentie concernée, donc peut-être certains d'entre vous. Avez-vous vécu un de ces matins terribles où, quand le réveil vous arrache un sommeil tourmenté de la nuit, votre corps ne ressent aucune vigueur, aucune force? Pourtant, il faut se lever et affronter tant bien que mal la journée qui vous attend. Debout, vous essayez de vous faire violence, mais rien n'y fait. Ce debout lancé si énergiquement est une tentative n'ayant qu'un piètre résultat. Le dos courbé, l'âme épuisée par l'épreuve de la maladie ou de l'adversité, vous souffrez et cette journée en sera une de plus sur le calendrier de vos douleurs. Il faut s'y faire. Moi, c'est vrai que les réveils sont toujours très difficiles. J'ai du mal. Et c'est vrai que des fois, on est là à se dire « Allez, vas-y, il faut se lever, on se parle à nous-mêmes, on se motive. » Pas toujours très efficace. Mais voilà, bon, après, voilà, il y a des choses plus dans ce passage qui sont un peu plus profondes des fois, parce qu'on porte des choses très lourdes ou parce que voilà, on a une maladie et qui fait que c'est encore plus difficile de se lever physiquement. Et du coup, c'est effectivement, parfois, on se dit « Bon, soit on en fait un « Bon, bah, c'est comme ça. » Et puis, bon, c'est vrai, il faut avancer. C'est vrai, on ne va pas non plus rester prostré dans un coin. Mais il y a, je pense, l'attitude de notre esprit, notre état d'esprit compte. Et pour cette femme, ça ne devait pas être simple. Bon, peut-être, ce n'est pas forcément dit dans le texte, donc je ne veux pas extrapoler, mais peut-être qu'elle était isolée, peut-être qu'elle était rejetée. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire partie, entre guillemets, d'un groupe, si on a des choses qui nous retiennent. C'est peut-être qu'elle avait ces difficultés. Mais par contre, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'elle était là, à la synagogue, et elle écoutait les enseignements de Jésus. Donc elle était là où elle devait être, au bon endroit, au bon moment. Elle n'était pas chez elle en train de pleurer sur sa situation, bien qu'en même temps, quelque part, on devrait dire, elle pourrait. Je veux dire, pas une situation facile, mais elle était là, au bon endroit. Elle devait être là où elle devait être. Elle était à la synagogue. Et on l'a encore une fois, on l'a chanté ce matin, mais il suffit d'une rencontre avec Jésus pour tout changer. Il faut persévérer et multiplier les opportunités de notre intimité, de notre vie personnelle avec Jésus et la communion fraternelle. Donc moi, je voudrais vous encourager ce matin par les efforts que vous fournissez et dans votre persévérance. Parce que c'est vrai, c'est pas forcément toujours facile quand on médite la parole, c'est qu'on écoute les enseignements de Jésus. Dans les efforts que vous faites quand vous venez au réunion de prière le dimanche. C'est vrai, hein, c'est pas toujours facile de se lever. Mais je voulais vraiment vous encourager, parce que vous ne savez pas à quel moment Dieu va toucher, Dieu va parler. Il y a aussi un psaume qui est en lien avec celui-ci. C'est le psaume 55 qui dit « Tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Et ce qui est fou, c'est exactement ce qu'elle a fait, cette femme. Parce que si vous lisez... C'est marqué, il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Se mettre à louer Dieu, c'est à peu près l'équivalent de « tu me rendras gloire ». D'ailleurs, entre parenthèses, je suis admirative de sa réaction parce que tout de suite, elle a donné gloire à Dieu. Elle n'a pas forcément posé des questions en disant bah, « pourquoi j'ai eu ça ? Ça fait pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'était exactement ? C'était quoi cet esprit ? Et où je l'ai chopé ? Et pourquoi ? Et pourquoi moi ? Et pourquoi si longtemps ? Et pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ? Ça fait 10 ans que je viens à la synagogue et personne ne l'a... » Enfin, voilà, on pourrait, surtout, bon, voilà, on a vu en tant que Français, on aime bien polémiquer un petit peu. Mais je pense que quand notre cœur est au bon endroit, on a le bon état d'esprit. Ça me faisait penser, on dit toujours, alors moi je ne suis pas passée par là encore, mais les femmes qui ont accouché, voilà, c'est apparemment très compliqué, c'est pas facile, hein, ça demande beaucoup d'efforts. Mais après, toujours ce qu'on dit, c'est que voilà, une fois qu'elles ont le bébé dans les bras, c'est merveilleux, on est trop content, c'est une merveilleuse créature, enfin voilà, et tout d'un coup, tout ça, ça, voilà. Et je pense que c'est cet état d'esprit, c'est que bon, elles sont, les femmes qui attendent un enfant, la plupart du temps, c'est parce qu'elles le voulaient et qu'elles sont heureuses de l'avoir. Donc même s'il y a des souffrances, au final, il y a cette joie. Et je pense que c'est pareil, quand notre cœur est au bon endroit, même si on vit par des difficultés dans nos vies, des épreuves, des choses compliquées, quand notre cœur il est fixé sur Dieu, et ben quand Dieu agit, on ne va pas essayer de dire « mais pourquoi tu m'as fait attendre si longtemps ?» etc. Mais on va être vraiment dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance, on l'a dit encore ce matin que c'était une clé. Et vraiment, du coup, on peut louer Dieu et lui donner gloire. Donc ce qu'on sait, c'est que Jésus veut nous relever. Il veut nous redresser. Mais il faut aussi qu'on sache qu'on a un problème, qu'on est courbé. Il faut faire le point, qu'on ferait le début du message. Il ne faut pas être dans le déni. Parce que des fois, on ne sait même pas qu'on est malade. On pense que tout va bien, ou on veut croire que tout va bien. Mais il ne faut pas être dans le déni. Et du coup, pour ça, il faut se poser, il faut reconnaître que Dieu est Dieu. Il faut reconnaître où on en est. Et il faut s'attendre à ce que Dieu agisse. Encore une fois, là, dans les petits commentaires de ma Bible, il y a trois questions qui sont posées par rapport à ce passage. Et je vous les pose. Vous réfléchirez vous-même aux réponses. Depuis combien de temps êtes-vous courbé ? Donc, vous pouvez l'appliquer à plein de choses. Êtes-vous angoissé, dans le souci par rapport à quelque chose ? Depuis combien de temps êtes-vous courbé et ne vous êtes-vous pas redressé de la situation de souffrance physique ou morale dans laquelle vous vivez ? Deuxième question, laisserez-vous Jésus toucher votre vie tout à nouveau ? Troisième question, depuis combien de temps n'avez-vous pas élevé la voix, les mains, votre être tout entier pour célébrer votre libérateur ? Donc voilà, c'est très court, hein, c'est quelques versets, mais cette attitude de cette femme, ça m'a fait réfléchir. Et je vous invite à y réfléchir aussi, voilà, à voir que c'est vrai qu'on pourrait dire que c'était pas juste pourquoi elle a eu ces 18 ans de soucis. Les questions, les trois ? D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous courbé et ne vous êtes-vous pas redressé de la situation de souffrance physique ou morale dans laquelle vous vivez ? Laisserez-vous Jésus toucher votre vie tout à nouveau ? Depuis combien de temps n'avez-vous pas élevé la voix, les mains, votre être tout entier pour célébrer votre libérateur ? Donc voilà, vraiment, soyez encouragés dans déjà ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez. Ne méprisez pas les petits commencements, dit la Bible. Ne méprisez pas non plus la persévérance dans laquelle vous êtes. C'est important, il ne s'agit pas non plus de se flageller en disant « j'ai tout mal fait, je suis nul, je ne vois rien ». Il ne faut pas tomber dans cet extrême-là. Mais vraiment avoir une vue juste et vraie de là où on en est, de ce qu'on a besoin. Et de toute manière, toutes les réponses vous amèneront à ce que ce soit... Enfin, toutes les questions vous amèneront à la réponse que vous avez besoin de Jésus. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Mais par contre, après, voilà, il y a des façons... Jésus parle à chacun de nous, spécifiquement, individuellement, selon notre situation, selon ce qu'on vit. Et c'est marrant parce que j'ai failli lire Romains, justement. Ah, tiens, je vais quand même le prendre parce que Romains 12, il y a le passage que David a lu ce matin. Mais il y avait ce qu'il y avait avant, moi, qui m'a aussi interpellée ce matin, enfin hier. Ah, c'est peut-être pas là alors. Ouais, donc c'est plutôt dans le Romains 11, c'est juste avant Romains 12, du coup, c'est à la fin du. Combien profondes sont. Alors c'est, pardon, 12, 33. Combien. Oui, 11, 33, pardon, j'y arrivais. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans, car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour ? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire, à jamais. Amen. Et je trouve ça fort, parce qu'après, du coup, Romains 12, on nous invite à donner notre corps comme un sacrifice vivant. Mais quand on lit ça, qui est juste avant, voilà, tout dépend en lui, par lui, pour lui. Donc, posez-vous, réfléchissez. Faites le point avec Dieu, où vous en êtes. C'est pas un retour à la case départ. Hein. C'est un point d'étape. Voilà. Et je vais finir avec cette citation. Comme vous l'avez compris, j'aime bien les citations. Si tu veux être déprimé, regarde à toi-même. Si tu veux être abattu, regarde en arrière. Si tu veux être distrait, regarde autour de toi. Mais si tu veux être délivré, regarde vers le haut. » Donc ça, c'est une citation, je ne sais pas qui d'ailleurs. Mais il y en a une qui ressemble à ça et qui est dans la Bible. Et la Bible dit encore mieux. Donc je vais finir avec ça, dans Psaume 121. Et je prie vraiment pour que vous puissiez vous saisir de ce que dit le Dieu dans ce psaume, pour que vous saisissiez peut-être quelque chose ce matin, que ce soit déjà une délivrance, que ce soit déjà une étape de plus, que ce soit une bénédiction de plus pour vous. Donc Psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. » Seigneur, je te remercie parce que tu es effectivement ce Dieu qui est bon, qui est juste, qui veut nous délivrer, qui veut que nous nous redressions et que nous puissions te rendre gloire avec tout ce que nous sommes. Tu es celui qui veut nous ôter toutes nos peurs, toutes nos angoisses, toutes nos maladies. Tu as payé le prix pour que nous puissions avoir cette liberté, pour que nous puissions avoir cette communion avec le Père. Seigneur, aide-nous chacun à rentrer dans ça, dans cette destinée que tu as pour nous. Aide-nous à ouvrir, ouvre-nous les yeux. Aide-nous à faire le point, à voir vraiment, Seigneur, là où les choses ne vont pas, là où on a besoin, Seigneur, d'un toucher particulier, parce qu'on ne peut pas tout seul. Seigneur, vraiment, aide-nous à savoir se poser, à savoir s'arrêter, à savoir, j'ai envie de débrancher un peu toutes les brises autour de nous et juste se poser face à toi. Que nous ne soyons pas comme le peuple avec Moïse qui a dit, toi, vas-y Moïse, et puis va voir ce que l'Éternel nous dit et reviens nous le dire. Que nous soyons plutôt comme Moïse qui va voir Dieu lui-même. Seigneur, que nous ayons cette soif et cette faim de toi. Que nous puissions aussi commettre cette femme, Seigneur. Que nous puissions être au bon endroit, là où, Seigneur, tu veux que nous soyons. Que nous puissions être aussi à tes pieds aussi, à écouter tes enseignements, à écouter ce que tu nous dis. Que nous ayons cette passion de méditer ta parole. Et Seigneur, que nous nous laissions aussi toucher par toi, afin d'être dans la délivrance et que nous puissions te rendre gloire, être dans la reconnaissance aussi. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici. Merci parce que tu nous aimes, que tu as des plans merveilleux pour nous. Et je prie pour que chacun d'entre nous puissions rentrer dans ces plans. Au nom de Jésus. Amen. Amen.